écoutez KTO Radio, il est 11h.
Trouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, Paul prisonnier du Christ avec le père Michel Quesnel, oratorien et exégète, et Roselyne Dupont-Roch, exégète également.
Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de formation. Cette semaine, nous fêtons la Saint-Pierre et Paul. Je vous convie à une émission paulinienne et je vous propose de réfléchir à une expression qui revient souvent sous la plume, ou plus exactement sous le roseau biseauté de l'apôtre, Paul, prisonnier du Christ. Pourquoi Paul utilise-t-il ce drôle de titre et en fait-il même un titre de gloire? Veut-il dire qu'il est bon d'être prisonnier à cause du Christ? Dit-il plutôt qu'il est le prisonnier du Christ? Mais alors, quelle est cette geôle et pourquoi le Christ nous jette-t-il en prison? Et nous-mêmes, sommes-nous prisonniers du Christ? Pour mieux comprendre cette intéressante expression, je vous propose de retrouver deux spécialistes de Paul. Roselyne Dupont-Roch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bibliste et vous avez longuement enseigné à l'Institut catholique de Paris. Père Michel Quesnel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre de l'oratoire, vous êtes également bibliste, vous travaillez sur la Bible. Vous êtes professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris. Vous êtes également le recteur honoraire de l'Institut de l'Université catholique de Lyon, et vous êtes actuellement chapelain, pas honoraire, au sanctuaire Saint-Bonaventure, et c'est à Lyon. Voilà, alors, j'ai commencé mon lancement en parlant de Paul, prisonnier du Christ. Peut-être qu'on peut se poser la question historique de savoir si, quelles étaient les prisons de Paul. Est-ce qu'il y en a eu plusieurs? Est-ce que Paul a souvent été prisonnier? Qu'est-ce qu'on peut savoir de cet emprisonnement?
Alors, Saint Paul a été certainement plusieurs fois prisonnier. Le premier témoignage que l'on a, c'est dans les Actes des Apôtres, lorsque à Philippe, il est emprisonné pour une très brève durée, puisque il est l'objet d'une guérison, une libération au sens, dans tous les sens du terme. Mm-hmm. Ensuite, peut-être à Corinthe, on ne sait pas, puisqu'il est resté 18 mois, qu'il a eu quand même quelques ennuis avec les pouvoirs publics. Mm-hmm. Et puis après, à Éphèse, sans doute. Puis après, alors, toute la série qui constitue le séjour de Paul prisonnier, lorsqu'il est arrêté à Jérusalem, transféré à Césarée, ensuite en bateau jusqu'à Rome. Et c'est le dernier témoignage qu'on a pour les Actes des Apôtres.
Mmh. Vous avez fait un lapsus très intéressant entre guérison et libération.
Absolument,
parce qu'on va voir qu'il y a quelque chose autour. Alors, on parlait autrefois d'épître de la captivité. Ça veut dire que pendant qu'il était en captivité, il écrivait des épîtres. Quel est le statut de ces épîtres-là?
Alors, il y a trois épîtres qu'on appelle l'épître de la captivité, qui mm-hmm. se suivent dans l'ordre de longueur décroissante, d'ailleurs, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Et puis, il y a une épître où il est en prison et qu'on ne considère pas comme épître de la captivité, c'est le billet à Philémon, mm-hmm. qui est le dernier, à la 13e des épîtres de Paul. Parmi ces épîtres-là, sans doute que deux ne sont pas de Paul lui-même. Éphésiens, Colossiens sont les œuvres des disciples. En revanche, Philippiens est vraiment de la plume de Paul. Et là, il est vraisemblablement vraiment en condition de captivité quand il écrit.
Alors, ce qui est frappant quand on regarde les Actes des Apôtres, quand on lit Paul, on a l'impression que la prison est une prison relativement douce. Hein. Il a le temps de travailler, il a des correspondances,
ça va, ça vient. Je ne suis pas sûre qu'aucune prison soit douce. Je pense que les prisons de l'époque, nous n'imaginons pas à quel point elles pouvaient être dures. En tout cas, dans la deuxième aux Corinthiens, il dit quand même clairement, et dans Philippiens aussi, qu'il a couru un danger de mort.
Oui.
Et que donc ça ne devait pas être si doux que ça, la prison. On voit bien même dans les Philippiens qu'il... Peut-être a-t-il eu quelque chose à choisir entre la vie et la mort, mais les conditions de prisonnier, à mon avis, n'étaient pas simples. Mm-hmm.
On a une idée de pourquoi il était mis en prison? Parce que finalement, c'était pas un hors-la-loi.
En général, c'est pour trouble à l'ordre public.
Oui.
C'est-à-dire qu'effectivement, à Philippe, quand ça commence, c'est parce qu'il a guéri une servante qui faisait gagner de l'argent à ses maîtres, etc. Donc les gens s'agitent et finalement on arrête Paul. Là, il ne restait pas très longtemps. Mais je crois que dans les trois quarts des cas, c'était trouble à l'ordre public. Ouais.
donc un peu le révolutionnaire ou l'activiste religieux qu'on veut mettre en...
Je ne pense pas que ce soit le mot révolutionnaire, oui. Je ne dirais pas ça. Non, c'est-à-dire que la prédication de Paul, qui est très incisive, et en particulier quelquefois, alors quand on suit les actes des apôtres, on s'en rend compte, c'est l'occasion de grandes divisions entre des juifs et des gens d'origine païenne. Et donc à cette occasion-là, effectivement, ça fait du chahut. Et donc la meilleure façon d'arrêter le chahut, c'est d'arrêter celui qui est le fauteur de troubles.
On voit bien, acte 19, que les amis de Paul lui interdisent même d'aller se présenter à l'Assemblée parce qu'il y a trop de risques. Donc, voilà.
La fin de la vie de Paul est uniquement en prison, vous l'avez dit. On a l'impression, alors oui, voilà, c'est là où je voulais en venir. On a l'image en tout cas les actes des apôtres donnent l'image d'un prisonnier, et puis ça s'arrête brutalement, il est encore en prison. Est-ce que l'exégèse a un peu avancé là-dessus? Où est-ce qu'on en est? Parce que c'est vrai que c'est des années obscures, des années dont on ne connaît pas grand-chose, à part ce témoignage-là. Qu'est-ce qu'on dit actuellement là-dessus?
On dit actuellement que les actes des apôtres se terminent non pas avec la fin de la vie de Paul, mais avec l'arrivée de l'évangile à Rome, capitale de l'Empire romain, et donc toute possibilité pour l'évangile de s'étendre et de faire tache d'huile. Après, on considère en général que Paul arrêté à Césarée, donc ayant fait appel à l'empereur, à Jérusalem, ayant fait appel à l'empereur, arrivé à Rome, ça s'est terminé sans doute par un non-lieu, et que la mort de Paul est consécutive à un autre moment de persécution.
Et puis, on s'appuie beaucoup pour envisager, mais moi j'y crois pas beaucoup, envisager une suite de la vie de Paul, un voyage en Espagne. On s'appuie essentiellement sur la fin de la lettre aux Romains, où lui-même prévoyait ce voyage en Espagne. Il va même à Rome pour que la communauté romaine l'aide à partir en Espagne. Il veut toujours aller plus loin, là où le nom de Jésus n'a pas été nommé. Et là, il y a un vrai projet. Après, il ne comptait pas le faire entre les mains de l'Empire romain, des prisonniers des Romains. Que s'est-il passé après Rome? On ne sait pas.
Les Catalans aiment bien qu'il soit allé à Tarragone.
Ah oui, même l'empreinte de son pied. Il y a l'empreinte du pied de Paul à Tarragone.
Non, ça s'est passé.
Oui. Alors, on va arriver vraiment sur les lettres de Paul et sur ce thème, mais peut-être une dernière question concernant la prison. J'ai dit, il va en faire un titre de gloire. Actuellement, on a une vision très complexe de la prison. Est-ce que dans l'Antiquité, être prisonnier, c'est quelque chose dont on peut se glorifier? Est-ce que, ou au contraire, il fait déjà œuvre novatrice en disant « je suis prisonnier, voici ma gloire ». Est-ce qu'on a une image de la prison comme quelque chose de positif, ou est-ce que c'est vraiment nouveau?
Non, la prison était quelque chose de très tragique quand même. Oui. Hein, Rosine évoquait
négatif,
tout à l'heure la difficulté
négatif
que les prisonniers avaient, parce que les conditions étaient quand même très dures, même s'il y avait des possibilités de communiquer avec l'extérieur. Peut-être un peu plus que maintenant d'ailleurs, vraisemblablement. Mais sinon les conditions étaient très dures. Alors je crois que Paul finalement théologise son expérience. Il s'est fait arrêter malgré lui. Il n'a absolument pas cherché à être là. Il n'a pas du tout été au-devant du martyr ou des difficultés. Et une fois qu'il vit cela, il se rend compte que finalement, c'est parce qu'il est prédicateur, parce qu'il est apôtre, qu'il devient prisonnier. Et à ce moment-là, c'est là qu'on atteint cette expression « prisonnier de Christ, pour Christ, par Christ ». On ne sait pas très bien d'ailleurs. Oui, on peut mettre les trois...
On va en parler.
Les trois façons de parler, oui. Voilà. Il sent vraiment que sa qualité, enfin sa condition d'évangélisateur, finalement, l'a mis dans ces conditions-là, et il veut absolument en faire quelque chose de fort.
Et ça fait quand même partie pour lui de l'ensemble de la grande faiblesse, des souffrances, des vicissitudes, des tribulations, qui montrent que l'apôtre n'est rien qu'un instrument aux mains de Dieu. Enfin, ça fait partie de l'état de faiblesse dans lequel il décrit l'apôtre et où se manifeste la force du Christ.
C'est de ces faiblesses qu'il se glorifie, voilà. Et la prison est une des dimensions de la faiblesse.
Alors, ce que vous dites l'un et l'autre est vraiment très intéressant, parce qu'on a une image de Paul comme une sorte de théologien dont sa théologie sortirait tout armée de son cerveau génial. Vous dites, il a une expérience et il théologise son expérience. C'est un théologien d'occasion, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, Paul?
D'occasion, c'est-à-dire que le mot est
un peu trivial. J'ai pas dit la petite semaine.
Oui. Non, je crois vraiment que c'est quelqu'un qui fait de la théologie à partir de son expérience. Paul était relativement peu souvent dans un bureau en train de dicter des lettres. Il était dans l'entreprise d'artisanat où il travaillait avec ses amis de Corinthe. Il était sur les places, dans les synagogues, partout. Et finalement, c'est pas un homme du bureau. Donc c'est finalement son expérience, ses difficultés, ses forces aussi, parce qu'il y a des réussites, on va me dire ça aussi, hein. sa réussite, sa faiblesse, c'est ce à partir de quoi il construit finalement l'image du prisonnier du Christ.
Mmh. Moi, je dirais deux choses. Je dirais que Paul n'est pas un théologien de bureau. Il est peut-être un théologien d'expérience, mais je dirais qu'il est surtout un théologien de passion. Paul est un passionné, un passionné, un entier, même un violent par moments. Et alors là, je crois qu'il faut jouer sur le mot passion. Sa théologie jaillit de ce qu'il vit, de ce qu'il expérimente, donc là c'est bien un théologien de l'expérience, de sa passion pour le Christ et de la passion souffrance, prison, ennui, de toutes sortes, difficultés, contraintes qu'il vit. Mm-hmm.
Hein? Donc vous maintenez quand même que c'est un théologien, parce que vous avez écrit un cahier évangile, Saint Paul, une théologie de l'Église, et vous avez mis un gros point d'interrogation, manière de dire... Ce n'est pas du tout ça.
Mais parce que théologien connote tout de suite théologie en chambre, système spéculatif cohérent et structuré. Je ne dis pas que Paul est encore que. Paul est-il totalement cohérent? Je ne crois pas. Et oui. Parfois, il est incohérent en sachant qu'il l'est.
Oui.
Et pour la bonne cause. Donc, en ce sens-là, théologien mérite quand même un point d'interrogation. Parce qu'il y a de l'ordre du témoignage, de la prédication. Paul est aussi un pasteur. Il y a un autre cahier évangile, Paul pasteur. Voilà.
Avec un point d'interrogation ?
Il n'y a pas de point d'interrogation.
Je crois qu'il ne faut pas oublier non plus que Paul s'exprime par lettre.
Oui.
Et donc, quand on parle à quelqu'un. Quand on écrit à quelqu'un. Oui. Et selon ses destinataires, il peut dire une chose, il peut en dire une autre. C'est pourquoi, finalement, ce n'est pas du tout une théologie systématique, mais au contraire, effectivement, une théologie adressée à tel ou tel, ce qui fait d'ailleurs la complexité pour comprendre la structure de sa pensée.
Et puis justement, puisqu'il dicte ou qu'il écrit, je ne sais pas s'il tient le calame ou s'il dicte, mais en tout cas, puisque ça s'adresse à des gens, là, au fond, sa théologie parfois naît de l'élan de la parole. Je ne veux pas dire qu'il invente à mesure, mais si, au fond, on pense à mesure qu'on écrit, on pense à mesure qu'on s'adresse. Et je crois qu'il y a souvent cela chez Paul, qui était sûrement un penseur génial.
Mmh. Voilà. Alors, on va repartir sur cette question de la prison, de l'emprisonnement. Et vous avez cité la lettre à Philémon. Je vous propose qu'on l'entende quasiment en entier. Et c'est une lettre vraiment importante pour notre sujet, puisque Paul se présente lui-même comme prisonnier de Jésus-Christ. Et il va parler d'un esclave, donc d'une réalité qui est finalement pas si loin que ça, de la prison. Donc on va écouter l'Épître à Philémon, ce sont les versets 1 à 14.
Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, le frère, à Philémon, notre bien-aimé collaborateur, et à Pphia, notre sœur, et à Archippe, notre compagnon d'armes, et à l'Église qui s'assemble dans ta maison. À vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu en faisant continuellement mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la foi que tu as envers le Seigneur Jésus et en faveur de tous les saints. Que ta participation à la foi soit efficace. Fais donc connaître tout le bien que nous pouvons accomplir pour la cause du Christ. Grande joie et consolation m'ont déjà été apportées. Par ton amour, frère, tu as réconforté le cœur des saints. Aussi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ton devoir, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une requête. Oui, moi, Paul, qui suis un vieillard, moi qui suis maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison, Onésime, qui jadis t'a été inutile et qui maintenant nous est utile à toi comme à moi. Je te le renvoie. Lui qui est comme mon propre cœur. Je l'aurais volontiers gardé près de moi afin qu'il me serve à ta place dans la prison où je suis à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord afin que ce bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il vienne de ton bon gré.
Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de Paul, prisonnier du Christ, avec le père Michel Quesnel, oratorien, exégète, et Roselyne Dupont-Roch, exégète également.
Voilà, on a entendu à peu près toute la lettre, enfin il y a encore quelques versets. Est-ce qu'on peut savoir un peu d'où ça vient, enfin, quel est le contexte, qui sont ces gens, qui est Timothée, qui est Philémon, qui est Onésime, juste quelques éléments de contexte.
Alors, le contexte, la lettre le dit un peu, Paul est déjà âgé, il se dit un vieillard, mais peut-être qu'à l'époque, à 50 ans, aujourd'hui on est jeune, à l'époque on était un vieillard. Et il s'adresse... Alors, Timothée et un de ses compagnons de route les plus anciens, les plus fidèles, même s'il y a eu des tensions entre Paul et Timothée. Mais on voit là que les deux doivent être réconciliés. En tout cas, c'est bien en prison qu'il écrit donc à cet ami Philémon, ce Philémon que l'on trouve ici avec son église. C'est intéressant, il n'écrit pas seulement à Philémon, il écrit à ceux qui sont avec lui dans sa maison, dans son église. C'est toute une communauté. La lettre est personnelle et en même temps, elle est une prédication. Il y a quelque chose qui est dit à la communauté. Alors, un des esclaves de Philémon, le dénommé Onésime, et en grec, Onésime a un sens, ça veut dire utile, quelqu'un qui est utile à Philémon. Un des esclaves est parti, s'est enfui. C'est pas très clair. C'est pas très clair ce qui s'est passé. On sait pas bien comment Onésime, est-ce que Philémon l'avait en partie affranchi? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Est-ce que Onésime avait commis un acte qui était répréhensible et il s'est échappé? En tout cas, il est arrivé auprès de Paul prisonnier et Paul prisonnier a fait d'Onésime son fils dans le Christ. Enfin, il a converti Onésime au Christ Jésus et il veut renvoyer Onésime à Philémon. Et il veut que Philémon accueille Onésime, alors certainement pas avec des violences, le punissant, le châtiant, mais comme un frère dans le Christ. Et quand on accueille quelqu'un comme un frère dans le Christ, peut-on le situer dans la société et dans la maison comme son esclave? Ça, c'est une question. C'est pas sûr qu'elle soit tranchée. Paul va dire ton frère dans le Seigneur et dans la chair. Bon, voilà. Peut-être que le fait d'accueillir un ancien esclave comme frère dans le Christ nécessairement lui donne une autre dignité que celle d'esclave. Pratiquement, c'est pas sûr que Onésime ne va pas redevenir, ne va pas rentrer au service de Philémon. Enfin. C'est mon hypothèse.
Alors, il y a plusieurs choses importantes dans cette lettre pour notre sujet, puisque on voit que Paul habituellement s'appelle apôtre et là s'appelle prisonnier. Donc, on est vraiment déjà dans un titre. C'est un titre de gloire d'une certaine façon.
Comme c'est une épître de fin de vie d'une certaine façon. Enfin, Paul est déjà âgé. Mm-hmm. Roselyne Duporoc l'a dit. Paul prend presque une espèce de nouvelle identité. Parce que finalement, il a accumulé des séjours en prison, et ça fait presque partie maintenant, d'ailleurs, de son être. Alors, on ne sait pas d'ailleurs de quelle captivité il écrit. Mm-hmm. Ça peut être à Rome, ça peut être antérieurement, ça on ne le sait pas. Il y a aussi un doute, vous le disiez tout à l'heure, on ne sait pas très bien quelle était la situation de Onésime. Pourquoi il était en situation répréhensible? S'il avait été un esclave en fuite, ça aurait mérité la mort.
Oui.
Donc c'était sans doute un autre tort qu'il avait eu vis-à-vis de Philémon. Reste que, voilà, il est devenu fils spirituel de Paul, et à ce moment-là, son esclavage, d'une certaine façon, au plan social, doit disparaître. Même si, comme Paul, quand on est disciple du Christ, on est aussi esclave de Christ, parce que le Christ, il faut dire que dans l'Antiquité, on est toujours dépendant de quelqu'un. On s'imagine beaucoup que les gens étaient libres et qu'on dépendait de personne. Même les hommes libres étaient dépendants des pouvoirs publics, étaient dépendants de bienfaiteurs, étaient dépendants de tout ce qu'on voudra. Ce qui veut dire que finalement, avoir Jésus-Christ comme maître, c'est le meilleur maître qu'on puisse jamais avoir. Donc tout le monde, Paul, il est prisonnier, mais il est aussi esclave de Christ, il le dit à d'autres moments. Philémon ne peut être qu'esclave de Christ, et Onésime tout autant. Donc finalement, on est un peuple d'esclaves frères. Et c'est vraiment cela que Paul veut mettre en avant dans sa lettre à Philémon.
C'est important ce que vous dites, parce que d'une certaine façon, ça, alors que c'est un titre plutôt dévalorisant, ça donne de la dignité, parce qu'il est très, digne d'être l'esclave de l'empereur, et c'est plus digne que d'être l'esclave du préfet ou l'esclave
absolument,
de...
Voilà, tout à fait.
Et donc c'est un titre qui finalement est un titre de gloire.
Et alors en plus de ça, enfin, l'empereur est effectivement un grand personnage, mais c'est quand même un homme qui a une volonté ferme et qui ne laisse pas les gens complètement libres.
Oui.
Tandis que Christ est le maître qui laisse ses esclaves libres.
Oui, c'est quand même qu'il est libère. Qu'il les libère. Christ est le libérateur.
C'est quand même extraordinaire.
Il semble bien que dans les Romains, lorsque Paul reprend Isaïe, le libérateur vient de Sion. C'est Dieu le libérateur, mais c'est aussi Christ. Mmh. Il est vraiment celui qui vient libérer, et donc on est l'esclave du libérateur. Alors là, il se présente comme prisonnier du Christ. Dans les Philippiens, où il est aussi prisonnier, il se présente comme esclave du Christ. C'est violent, et d'ailleurs on ne sait pas comment traduire, on voit bien les traductions. les traductions n'osent pas esclave du Christ. Esclave, c'est pas possible.
Oui, on prend serviteur.
Eh ben voilà, c'est bien, c'est plus propre. C'est plus propre d'être serviteur. Mais bon, doulos, c'est l'esclave. En tout cas, le mot est le même. Alors, on va dire que c'est un mot qui a peut-être une gamme de significations assez large et que ça peut être l'esclave comme ça peut être le serviteur. Je n'en crois rien. Doulos, c'est l'esclave. Il y a d'autres mots pour serviteur, hein, d'autres mots.
Dans les traductions, effectivement, qui disent serviteur, je trouve qu'on a fait le
texte. Bien entendu. Hein.
C'est beaucoup plus fort sur l'emplacement-là.
Dans
l'Antiquité, quand même, la différence entre l'esclave et l'homme libre était considérable. Donc on ne peut pas, je crois, traduire doulos par serviteur.
D'ailleurs, c'est même toute la thèse de Paul dans les Galates. Vous étiez esclave, et dans les Romains, vous êtes devenu fils. Et c'est vraiment les deux, l'opposé dans la société, l'esclave et celui qui n'est rien, et qui est entièrement dans la dépendance de son maître, le fils est l'héritier, donc celui qui un jour sera tout.
Alors ça nous renvoie effectivement à ce qui va se passer, qu'on ne connaît pas, la suite des relations entre Onésime, Philémon et Paul. Il est tout à fait possible, comme vous le disiez, que Onésime a été repris comme serviteur, mais un serviteur qui n'était plus esclave, ou peut-être encore esclave, on ne sait pas.
On ne sait pas.
Mais finalement, avec des relations quand même...
différentes.
Voilà, différentes. Parce que quand on avait un esclave chrétien et qu'on était son maître chrétien, il y avait une fraternité qui se superposait à l'esclavage social.
Et ça, c'est allé certainement assez loin. Parce que c'est une anecdote, mais quand même, dans les lettres à Timothée, qui à mon avis est beaucoup plus tardive, où donc des maisons sont des maisons... Enfin, il y a des maisons chrétiennes où tout le monde est chrétien, le maître et les esclaves, on voit que les esclaves chrétiens, parce qu'ils sont devenus les égaux du maître en Christ, en ont pris à leur aise. Et l'auteur de la lettre à Timothée est obligé de leur dire, les esclaves, vous vous tenez tranquille, ne méprisez pas vos maîtres. Ça a évolué hein, dans les maisons chrétiennes, ne méprisez pas vos maîtres. Donc, restez esclaves, parce qu'ils sont chrétiens et se sentent les frères des maîtres, ils ont dû un peu pousser.
Vous voulez dire, la difficulté, c'est de jouer sur ces deux niveaux. À la fois le niveau social et puis un niveau
et la réalité spirituelle, ouais, mais qui a des implications dans la relation et donc nécessairement aussi au niveau social.
Alors il y a une autre expression qui est intéressante, c'est oui, moi Paul qui suis un vieillard, moi qui suis, donc c'est le verset 9, moi qui suis maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison. Alors là, il est en train de faire une demande. Il devrait mettre tout le poids de son autorité apostolique dans la demande. Et au lieu de mettre ce poids-là, on a l'impression que il prend un titre qui est presque plus fort qu'apôtre. C'est vieillard, enfin double titre, vieillard et prisonnier. Pourquoi ? Est-ce que ça veut dire que c'est glorieux d'être en prison ? Vous savez, comme chez les révolutionnaires des années 60, je suis allé dans les geôles de je ne sais pas qui. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui, c'est-à-dire qu'en même temps, je pense que Paul a conscience que le fait que lui-même a accepté de témoigner jusqu'au danger de la prison, c'est une force, pas seulement pour lui, mais pour les autres. Ça veut dire que les autres frères en Christ sont des gens qui sont invités aussi à s'engager relativement fort. Je crois que c'est là, effectivement, que quand on dit que Paul est prisonnier de Christ ou par Christ et pour Christ, hein, ça veut dire que finalement, il est une espèce de garantie du sérieux de la de prédication évangélique et de l'engagement de la personne.
C'est l'équivalent du martyr ? Est-ce que c'est... Enfin, toute proportion gardée.
Le martyr est le jusqu'au bout de cela.
Oui. Hein,
mais il est caractéristique, par exemple, dans l'Épître aux Philippiens, où il parle comme si, où il écrit, pardon, comme si sa condition de prisonnier était une force pour l'Église. Vous permettez que je lise ce petit passage ?
Avec plaisir.
Voilà. Dans tout le prétoire, en effet, et partout ailleurs, il est maintenant bien connu que je suis en captivité pour Christ. Et la plupart des frères, encouragés dans le Seigneur par ma captivité, redoublent d'audace pour annoncer sans peur la parole. Ouais. La captivité, donc, montre effectivement qu'on peut aller jusque-là, et que ça mérite d'aller jusque-là si le témoignage doit en être renforcé.
C'est encore actuel ? Parce que c'est vrai que, je dis ça parce que le pape, là, il y a quelques semaines, est allé en Terre Sainte, et il a dit des choses un peu dans ce sens-là, en disant que, voilà, il y a des situations où il ne faut pas refuser la prison, il ne faut pas...
Les martyrs, la difficulté, etc., sont quand même une sorte d'indice, hein, de l'engagement personnel dans sa foi et dans son témoignage. Et ça, je crois que, donc, y compris pour ceux qui ne vivent pas les mêmes ennuis, qu'il y en ait, qui aillent jusque-là, ça aide ceux qui n'y sont pas à s'engager aussi, peut-être pas de façon aussi dramatique, mais quand même très fort.
Alors on est toujours un peu gêné et c'est vrai que c'est enfin quand on lit Paul, c'est que il se prend quand même un peu souvent en modèle. C'est un peu ce que dit Pierre Kedel.
Non, c'est pas. Enfin, bien sûr, imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Oui. Imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Oui. Je crois que c'est toujours comme ça. C'est comme ça dès la première lettre aux Thessaloniciens. Donc c'est le premier écrit paulinien. On date de 49, mais dans les premières lignes, premier verset, voilà. Imitez-moi comme moi je le suis, soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Dans Philippiens aussi, c'est toujours parce que il est allé le plus loin possible à la suite et à l'imitation du Christ qu'il peut devenir pour d'autres un modèle. C'est jamais lui, Paul. Mm-hmm. C'est lui en tant que c'est le Christ qui vit en moi.
Donc enfin, vous faites l'hypothèse bienveillante.
Non, c'est pas l'hypothèse bienveillante. Je crois que c'est la véritable hypothèse. C'est la véritable hypothèse parce que, effectivement, Paul est prêt à suivre le Christ jusqu'en prison, jusqu'à la mort s'il le faut, sans la chercher. Il y échappe et il est bien content d'y échapper. Et il y a vraiment là l'idée qu'il y a une espèce de chaîne, une espèce de relais. On voit même dans les Philippiens qu'il écrit à ceux qui vont venir et qui n'ont pas pu venir, Épaphrodite est malade, que c'est aussi une suite du Christ, une chaîne de témoins. Voilà. Simplement, il est celui qui engage le premier maillon, on va dire, de la chaîne des témoins.
Je crois qu'on a besoin de modèles.
Oui.
Bon, Jésus-Christ, effectivement, il y avait des bribes d'évangiles qui commençaient déjà à circuler, donc on avait des récits de sa vie, on avait des paroles qu'il avait dites, mais qui imitait ? Et bien finalement, c'est effectivement les apôtres, lorsqu'ils témoignent, qui, par la façon dont ils vivent, manifestent ce qu'on peut être quand on est engagé dans la foi au Christ.
Alors je vous propose, on a commencé déjà à le dire, on voit qu'on parle de la réalité de l'emprisonnement comme un titre de gloire, comme une occasion de modèle, etc. Mais vous l'avez dit l'un et l'autre, on sent bien que petit à petit on va aller vers une réalité spirituelle. Ça dit quelque chose du rapport que l'on doit entretenir avec Dieu. Alors je vous propose qu'on entende un deuxième texte, cette fois-ci dans la première aux Corinthiens, c'est au chapitre 7, les versets 17 à 24, et justement il parle de cette condition, des conditions de l'esclave, des conditions du prisonnier et la question de l'affranchissement.
Par ailleurs, que chacun vive selon la condition que le Seigneur lui a donnée en partage et dans laquelle il se trouvait quand Dieu l'a appelé. C'est ce que je prescris dans toutes les églises. L'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé? Qu'il ne dissimule pas sa circoncision. L'autre était-il incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Le tout, c'est d'observer les commandements de Dieu. Que chacun demeure dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. Étais-tu esclave quand tu as été appelé? Ne t'en soucie pas, au contraire. Alors même que tu pourrais te libérer, mets plutôt à profit ta condition d'esclave. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, celui qui a été appelé étant libre est un esclave du Christ. Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé.
Écoutez actuellement La foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, nous parlons de Paul, prisonnier du Christ, avec le père Michel Quesnel, oratorien, exégète, et Roselyne Dupont-Roc, exégète également.
Voilà, alors, il y a beaucoup de choses. Peut-être pour commencer, on l'a aussi resitué dans quel contexte on se trouve. Donc on est dans la première aux Corinthiens.
Première épître aux Corinthiens.
C'est une communauté un peu compliquée, Corinthe, et il écrit de manière un peu vive dans cette première épître.
D'ailleurs, ce n'est pas sa première épître, c'est sa seconde, sans doute.
Probablement.
Parce qu'il a déjà effectivement une correspondance importante entre les Corinthiens et lui. Et il y a des questions effectivement qui se posent aux questions à propos du mariage. Vaut-il mieux être célibataire? Vaut-il mieux, quand on adhère à l'Évangile, changer la condition qui était la sienne? Quand on a une femme païenne, est-ce qu'il faut la laisser, etc. Enfin, il est vrai que dans une société comme la société corinthienne, le fait de devenir disciple de Christ, changeait quand même éventuellement beaucoup de choses. Bon, souvent, on se convertissait en maisonnée, mais pas toujours. Fallait-il laisser tomber sa femme si elle ne voulait pas suivre? Enfin, il y avait toutes ces questions-là. Et finalement, le nerf de la pensée paulinienne, c'est ce qu'il exprime d'ailleurs dans le passage que nous avons lu, c'est que ça ne change rien à votre situation sociale. C'est-à-dire que la situation religieuse et spirituelle, finalement, ne doit pas avoir pour conséquence de changer de métier ou de changer de conditions matrimoniales, sociales, etc. Tu étais célibataire, reste-le, tu n'étais pas, t'as pas de raison de te marier. Mm-hmm. Finalement, la réalité de l'appartenance au Christ est une réalité qui transcende, qui surpasse tous les conditionnements sociaux, même sur l'emploi des mots qui sont les mêmes. Mm-hmm. Puisqu'on emploie le mot esclave,
on va y revenir,
qui est en même temps spirituel et social,
oui,
etc.
Ouais. Donc, mais avant, on va y revenir parce que c'est le cœur. Mais d'une certaine façon, ça veut donc dire que oh, c'est un conservateur social, Paul.
Alors, on l'a reproché.
Oui.
On l'a reproché.
Surtout dans les années 60.
Oui, absolument. On l'a reproché au christianisme de n'avoir pas énormément travaillé quand même pour la libération de l'esclavage.
Oui.
Il est vrai que. Mais en même temps, voilà, le christianisme n'est pas un mouvement révolutionnaire au plan social ou politique, même si l'engagement de la personne a des conséquences sur la façon dont elle se comporte au plan social et politique.
Mmh. Oui, il y a de là derrière des problèmes quand même qu'il faut peser. Un christianisme qui aurait libéré demandé la libération des esclaves à cette époque-là était voué à disparaître. Mmh. Il y avait quand même les 4000 croix de la révolte de Spartacus dans l'ombre. Sur la voie Appia devait rester dans les mémoires. Dire, ça n'avait guère de sens. Alors, voilà, il y a un travail qui se fait, qui est un travail intérieur. Moi, j'imagine guère un travail intérieur qui n'ait des répercussions minimales sur la façon de vivre. Ça ne veut pas dire nécessairement que ça va changer le statut social, mais le statut de la relation, la forme des relations. Mmh. C'est là que ça travaille.
Alors, en revenant à cette épître aux Corinthiens, ce qui est très frappant, c'est qu'on sent que c'est très balancé. Esclave, pas esclave, oui. Libéré, pas libéré. Et même cette histoire d'esclave du Christ ou de serviteur du Christ. Il faut oser. Hein.
Mais moi, je dirais plus que balancer. Ce texte est, à mon avis, caractéristique de l'écriture de Paul, qui est une écriture contrastée. Enfin, comme vous dites, non seulement c'est balancé, mais il y a un choc des mots qui est étonnant. Hein. Mm-hmm. Appelé esclave, libre, libéré du Seigneur. Parce que nous, on entend affranchi, mais voilà, appelé esclave, libéré du Seigneur. Homme libre, appelé libre, esclave du Christ. Les mots s'entrechoquent et c'est caractéristique de l'écriture de Paul, de même que l'expression prisonnier du Christ est caractéristique de l'écriture de Paul. Il emploie souvent ce qu'on appelle pompeusement en rhétorique l'oxymore, c'est le soleil noir, hein, les deux mots opposés qu'on choque.
Alors, qui est c'est un terme masculin. Parce qu'on entend souvent une oxymore, donc c'est un oxymore.
Bon. C'est une façon d'écrire, c'est une figure littéraire. Moi, je crois que c'est beaucoup plus que ça. C'est pas seulement une façon d'écrire une figure de la guerre, c'est une forme de pensée. C'est une forme de pensée. La foi chrétienne de Paul pense comme ça, par renversement, par jeu d'opposition. Tout l'ancien est conservé, mais tout devient nouveau. Voilà. Il y a vraiment ce paradoxe constant dans l'écriture et la pensée de Paul. Son christianisme est paradoxal.
Théologiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est dans une... Enfin, ou peut-être même personnellement, parce que vous avez raison, c'est lié à quelque chose de profond en lui. Ça veut dire qu'il se sent en contraste, il est dans un monde contradictoire.
Je pense qu'il se sent dans un retournement perpétuel. Il y a cette espèce de nouveauté qui jaillit, il le dit d'ailleurs, hein, dans les films. Tout son passé s'efface, se défait devant la nouveauté qui jaillit et qui d'ailleurs prend en charge ce passé. C'est ça qui est étonnant.
Oui, parce que la contradiction va dans un sens puis retourne dans l'autre.
C'est-à-dire,
je suis prisonnier, je suis esclave, je suis libéré, je suis de nouveau prisonnier, etc.
Alors, c'est vrai que ces expressions esclave du Christ, prisonnier du Christ, pour moi, ce sont des oxymores. Prisonnier de la libération, prisonnier de la liberté, on pourrait presque dire.
Mais je crois qu'il y a derrière, si vous voulez, enfin, l'événement quand même qui est central dans la foi de Paul, c'est la mort et résurrection. Mm-hmm. La mort est une vie et la vie est une mort. C'est l'oxymorone principal,
oui,
me semble-t-il,
absolument.
De la pensée paulinienne. Donc finalement, chaque fois, effectivement, il pense comme ça par contraste. Pour Christ, s'il s'était défendu d'être mis en croix, il serait mort comme tout le monde et il ne serait rien passé. Mmh. Il a accepté la crucifixion, donc sa mort est source de vie. Mmh. Et finalement, c'est toujours un peu comme ça que les choses se passent. Et alors, d'ailleurs, il donne une expression là qui me paraît extrêmement forte dans le texte que nous avons lu. La traduction de la écuménique de la Bible dit « Quelqu'un a payé le prix de votre rachat, ne devenez pas esclave des hommes. » Je crois que si on traduit très littéralement en grec, c'est « Vous avez été acheté cher. »
Cher, oui.
C'est-à-dire que le Christ, la crucifixion, c'est le prix d'achat que le Christ a eu pour les esclaves que nous étions. Ils nous sommes devenus ces esclaves parce qu'il les a rachetés à un autre maître, qui était effectivement les esclaves, enfin les maîtres de la société civile, ou qui était éventuellement le mal comme autre forme de domination. Mmh. Donc on a été rachetés de là, et effectivement à partir de là, nous sommes dans la pleine liberté, parce que voilà, la croix, c'est vraiment l'acte d'achat. Cette image-là existe à deux reprises, je crois, dans la première épître aux Corinthiens.
Oui, en Corinthiens 6 aussi, oui, ça existe. Oui. Oui, et alors, moi, je dirais volontiers deux choses. C'est que cette histoire d'avoir été racheté, ça fait passer, parce que dans l'Antiquité, on disait tout à l'heure, on est toujours sous la dépendance, soit d'un pouvoir humain, soit d'un pouvoir plus ou moins divin, plus ou moins surnaturel. Les Grecs se sentent bien dépendants de la destinée, de Tuké, du hasard ou de la nécessité. Un anké, il y a quelque chose qui pèse sur le monde et sur les hommes. Et dans le monde juif, il y a quand même aussi toute une idée de démonologie. On appartient plutôt sous tel groupe d'êtres qui sont des créatures, mais qui sont des êtres spirituels. Donc évidemment, on va passer de la dépendance de ces êtres-là, et le péché pour Paul en est un, les forces du refus, du mal, de la destruction, à une autre dépendance qui est celle du Christ, ou la possibilité là, et même la nécessité de parler en termes de dépendance. Mais voilà, la découverte, c'est que cette dépendance-là, c'est une libération extraordinaire.
Ces êtres-là, d'ailleurs, Paul les appelle les principautés, les puissances.
Exactement.
Donc finalement, ce sont des mots qui évoquent un pouvoir, presque toujours. Et donc, on sort de ce pouvoir-là, parce que finalement, le Christ nous en a fait sortir.
Et le péché, la mort, sont des pouvoirs, sont des puissances. Si bien que lorsque nous avons parlé tout à l'heure des Philippiens, il y a une phrase dans les Philippiens qui est extraordinaire, où il dit « Pour moi, vivre, c'est le Christ, et on traduit toujours « mourir, c'est un gain ». Le français est infirme. Parce qu'en gros, ce qu'il dit « Pour moi, être vivant, c'est le Christ, et c'est dans la durée, on est vivant. » Et le fait de la mort, mais la mort est saisie comme une réalité ponctuelle qu'on traverse. Ça, c'est un gain. Mais on est vivant de l'autre côté aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a du mal à traduire ce verset-là. Ouais. Voilà. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Et le mourir me
alors,
le fait gagner.
Je voudrais revenir sur ce passage. C'est le verset 22. L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, celui qui a été appelé étant libre est un esclave du Christ. Je voudrais qu'on revienne sur cette idée de l'esclavage du Christ. Parce que c'est vrai que dans la théologie, après Paul, et la théologie un peu contemporaine, on insiste beaucoup sur la liberté, sur l'absolue indépendance du chrétien. Nous sommes libres, nous pouvons tout faire. Aime et fais ce que tu veux, comme disait Augustin. Qu'est-ce que ça signifie, cet esclavage? Enfin, vous vous sentez esclave du Christ?
Je ne pense pas que j'emploierais pour moi le mot esclave, parce que c'est un mot qui a disparu de mon vocabulaire culturel pour la situation présente des humains. Et il y a encore des esclavages, hélas, mais je pense qu'il vaut mieux faire sortir cette condition-là de ce qui existe. Non, mais je pense vraiment, je me sens, soumis au Christ. Une espèce de soumission, c'est lui mon maître. Il n'y a rien à faire. Et chaque fois que je cherche à savoir comment je vais vivre, j'essaie de me référer à ce que lui a vécu. Ou alors à ce que Paul a vécu. Parce que tout à l'heure, on évoquait aussi Paul invitant à l'imiter. Finalement, j'ai des modèles. Alors le modèle, ce n'est pas du mimétisme.
Oui.
C'est de l'imitation au sens fort du terme. C'est-à-dire qu'on essaie de voir comment quelqu'un vit et ce qui le pousse à vivre comme cela. Ce sont finalement les mêmes motivations que je dois mettre en moi pour agir conformément à la volonté du Christ, de Dieu et à l'image de Paul.
Moi, je voudrais ajouter une chose, c'est que, esclave du Christ, prisonnier du Christ, en même temps, Et on l'a dit déjà, Paul est le chantre de la liberté.
Oui.
Hein, la fin des Galates, c'est à la liberté que vous avez été appelé. Christ vous a libéré pour la liberté. Mmh. Seulement voilà, dans les Galates, je crois que là, il montre ce que c'est que cette liberté. C'est à la liberté que vous avez été appelé. Non pas la liberté pour servir de prétexte à la chair, aux forces finalement d'écrasement des autres, mais par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. C'est une liberté pour servir. Mmh. Et il me semble que derrière, là, il y a vraiment la culture de Paul qui est présente, c'est-à-dire on a déjà ça dans le récit de l'Exode, « Laisse sortir mon peuple, le peuple de Dieu va être arraché à la servitude pour qu'il me serve sur la montagne. » Le peuple est libéré pour servir Dieu. Alors, Paul déplace ça, le Christ nous a libérés pour servir et pour servir les autres. Donc c'est une liberté qui trouve au fond toute sa dimension dans le service mutuel, le service de ceux qui vous entourent. Moi je trouve que c'est vraiment très très fort.
Je crois qu'il y a aussi une autre forme de libération, c'est la libération par rapport aux préceptes de la loi juive. Mm-hmm. Parce que finalement ça a été quand même un des grands débats, oui. C'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs maintenant les juifs commencent à étudier saint Paul, mais pendant très longtemps c'était un peu l'âme damnée pour un juif. Parce qu'ils se libèrent des préceptes de la Torah dans ce qu'ils ont de trop contraignant. Mm-hmm. La circoncision, c'est secondaire. Les règles alimentaires, c'est secondaire. La minutie du respect du Shabbat, c'est secondaire. C'est finalement, donc, invente ta façon de vivre plutôt que soumets-toi à des commandements dans leur minutie. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de très libérateur, parce que finalement, Paul, dans la conduite de la vie morale, fait beaucoup appel à la conscience, quelque chose un petit peu nouvelle par rapport à son environnement. C'est ce que j'ai en moi d'impulsion venant de ma foi qui me conduit à inventer comment je dois vivre et non pas à obéir à ceci, 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 cela. On a souvent fait du christianisme un légalisme.
Oui.
Et de Paul, quelquefois un légaliste, parce qu'il donne quelquefois des procès un petit peu fermes, depuis qu'il est passionné, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais Paul est tout sauf légaliste.
Ah non. Et de la loi, il retient, ou il récapitule la loi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mmh. Avec un terme, l'agapé, dont moi je pense qu'il est quand même le promoteur. Parce que c'est un mot qui n'existe guère avant lui. Et peut-être dans le livre. En grec, il apparaît dans le livre de la sagesse. Ah non, on connaît le verbe. Le verbe est très employé. Ouais. C'est un amour de respect et de prédilection. Mm-hmm. Le verbe aimer. Mais le mot agapé existe quasiment pas. Il apparaît dans le livre de la sagesse. On essaye de le trouver quelque part dans le Siracide, mais il faut trafiquer les manuscrits. Mm-hmm. Et puis sinon, il n'y est pas. C'est Paul qui le promeut dès la première lettre aux Thessaloniciens. Et qu'est-ce que c'est que cet agapé, sinon la liberté qui se met au service et au respect des autres,
hein. Là, vous avez un très beau passage de l'Épître aux Romains qui va dans le sens que vous disiez. C'est Romains chapitre 13, verset 9. « En effet, les commandements, il en cite quelques-uns, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole » et non pas dans un commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On sort d'une logique de commandement pour arriver à une logique d'amour beaucoup plus inventif, en fait, que d'obéir à quelque chose.
Un peu plus angoissante aussi.
Voilà. La liberté, c'est angoissant.
La liberté, c'est très angoissant. Hein, parce qu'on a beaucoup moins de repères, de garde-fous, de choses comme ça.
Alors, je voudrais revenir sur ce que vous disiez à un moment où vous disiez finalement le fait d'être prisonnier, ça nous met en situation de faiblesse et c'est aussi un des thèmes majeurs de Paul. Alors, est-ce qu'on peut creuser là-dessus? Donc, il nous reste une dizaine de minutes. Je pense que c'est très important. C'est être prisonnier, c'est comment dire paradigmatique. Enfin, c'est l'exemple même de la condition de chrétien.
Ou un des exemples. Et là, je crois que c'est vraiment une expérience spirituel très fort de Paul, alors qu'il le met en scène dans la deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 12, lorsqu'il dit « Mais moi aussi, comme les autres, j'ai eu des visions, j'ai été même emporté au septième ciel, enfin. » Et où il dit finalement, ça c'est irracontable, on n'a rien à dire là-dessus. J'ai entendu des paroles, mais de toute façon, elles sont indicibles. Alors c'est pas la peine, il n'y a rien à voir, passer. Là où se dit la véritable parole de libération, de salut et de sagesse du Christ, c'est dans ma faiblesse. Alors cette écharpe dans la chair dont on ne sait pas ce qu'elle c'est, sa douleur, mais ensuite il va aussi énumérer toute une série de malheurs qui lui sont arrivés. Il a reçu des coups de fouet, on l'a mis en prison, il a connu des naufrages, il a été volé, il a été... Voilà, donc il s'étend énormément sur ses faiblesses, sur toutes les souffrances et les difficultés qu'il a vécues. Non pas par masochisme, parce qu'on n'imagine pas un Paul masochiste, et on voit bien qu'il est beaucoup trop vivant pour ça, mais parce que, dit-il, c'est dans ma faiblesse que je suis fort, parce que c'est là que la parole de Dieu passe à ma place, enfin, que le Christ prend toute la place. C'est vraiment là encore un paradoxe, c'est dans la faiblesse que je suis fort.
Parce que, parce que je ne peux plus me prévaloir de moi-même, c'est
ça ? Parce que c'est plus moi, parce que c'est plus moi, parce qu'un autre vit en moi et que c'est cet autre que j'annonce et qui est annoncé à travers moi. Oui. Et là, il y a quelque chose de l'ordre d'une mystique, mais toujours pour l'annonce, pour d'autres.
Mais c'est là que la liste qu'on vient d'évoquer, enfin, c'est dans 2 Corinthiens, c'est très lyrique d'ailleurs, hein. Des Juifs, j'ai reçu 5 fois les 39 coups, 3 fois j'ai été flagellé, 1 fois lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, etc., etc. Mm-hmm. Bon, dans cette liste-là, en fait, on pourrait penser qu'il se met en valeur, qu'il se vante. Et en fait, c'est pas lui qu'il vante. C'est des situations dans lesquelles il s'est trouvé qui l'ont permis de se rendre compte que s'il ne met pas le Christ en premier dans sa vie, tout ce que lui peut dire ou inventer, etc., c'est pratiquement sans valeur. Et on est encore dans l'oxymorone qu'on évoquait tout
arrêt,
à l'heure.
Enfin, sans arrêt.
On est sans cesse là-dedans.
Alors, mais je fais un peu l'avocat du diable, hein, évidemment, mais est-ce que c'est pas un peu dangereux, et je parle à un oratorien, ils ont été condamnés au XVIIe, enfin pas condamnés, mais suspectés au XVIIe, XVIIIe siècle, est-ce que c'est pas une position un peu quiétiste, en disant, voilà, je suis prisonnier, donc je suis complètement incapable, je ne peux plus rien faire, et j'attends que tout me vienne, et y compris spirituellement. Vous avez dit, c'est une position spirituelle.
Moi, je n'ai pas dit que je me disais incapable. Paul ne se dit jamais incapable.
Quand on est prisonnier, normalement... on est dans l'incapacité d'agir, puisqu'on a des fers aux pieds, et donc on ne bouge plus.
Oui, il écrit, il parle. Il ne meurt pas.
Alors, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de dire, voilà, nous sommes tous des prisonniers ?
Ben, c'est-à-dire que oui et non, parce que ça rejoint ce qu'on disait quand même tout à l'heure, que le chrétien, selon saint Paul, doit inventer sa façon de vivre. Donc c'est pas du tout une espèce de passivité,
oui,
en disant ben laissons l'esprit agir en moi et puis on verra bien. Je crois vraiment que l'attitude spirituelle ne dispense aucunement de la réflexion, ne dispense aucunement de l'intelligence. Paul est un homme intelligent, ô combien, et tu sais s'il fait fonctionner son cérébral, et c'est un homme aussi engagé. Parce que finalement, c'est un mot qu'on n'a pas encore employé, je crois, le mot engagement, si je ne me trompe.
Il faut l'employer.
Et je crois qu'il faut l'employer parce que l'emprisonnement, qui est un emprisonnement modèle qu'il est possible d'aller jusque-là, et que le Christ a vécu d'une certaine façon aussi, non pas une captivité, mais de se laisser prendre par les autres. Ça a été jusqu'à la mort pour lui. L'emprisonnement est une façon, finalement, de se rendre compte que, voilà, il y a un ressort à trouver dans celui qui est mon maître maintenant.
Mmh. Oui, je crois qu'il n'y a jamais de complaisance dans ces situations de faiblesse. Au contraire, elles sont l'occasion de laisser parler à travers soi le Christ. Mais il faut qu'il parle, il faut qu'on le laisse parler, il faut que d'autres l'entendent. Donc, j'ai toujours, il y a la dimension missionnaire qui est première chez Paul. Dans la lettre aux Philippiens, il dit bien, j'aurais pu mourir en prison, il dit que j'avais le choix, et ça aurait été mieux parce que j'étais avec le Christ. Mais pour vous, et pour la progression et la joie de votre foi, je vis. C'est étonnant quand même.
Alors, avance encore, et on arrive quasiment à la fin du passage, et c'est aussi la fin de l'émission. Il y a un verset qui est vraiment intéressant. On a vu toutes les dimensions, hein, de cette thématique de l'esclavage. Et Paul conclut, si on peut dire, « Quelqu'un a payé le prix de votre rachat, ne devenez pas esclave des hommes. » Donc là, on arrive dans ce qu'on disait, cette question de morale. Comment est-ce qu'il faut comprendre ce « ne devenez pas esclave des hommes » ? C'est-à-dire qu'on était esclave, on est racheté, on est esclave du Christ, et il ne faut pas retomber... Enfin, on voit que c'est assez compliqué, hein, sa pensée.
C'est une prise de distance, me semble-t-il, par rapport aux conventions sociales, etc. Marié, célibataire, circoncis, incirconcis... Voilà. En fait, le poids du respect humain, de la société, risque toujours de conditionner nos comportements. Mmh. Et je crois que Paul invite à une extrême liberté par rapport à cela. On peut être esclave de Dieu, esclave du Christ, esclave de l'Esprit, dans le discours de Millet, dans les Actes des Apôtres, il y a cette belle expression, je suis enchaîné de l'Esprit.
Oui. Comment on comprend ça?
C'est une... un peu de la même façon, c'est-à-dire oui, que oui. Bon, il en soit beaucoup plus l'expression prisonnier du Christ ou esclave du Christ. Mais je crois que dans les épîtres pastorales, je ne sais plus très bien laquelle, il se déclare aussi prisonnier de Dieu ou quelque chose comme cela. Donc, on peut être prisonnier de Dieu, de l'Esprit, du Christ, certainement pas, effectivement, des comportements convenus que les modèles sociaux nous collent sur la peau.
Oui, c'est ce qu'il appelle ce monde, dans le début, le chapitre 12 de la lettre aux Romains, ne vous laissez pas configurer à ce monde. Voilà, mais laissez-vous renouveler. Alors, il y a un paradoxe, parce que il ne va pas être esclave des hommes, mais il dit bien dans les Galates, par la liberté, mettez-vous au service, et c'est le verbe de l'esclavage, les uns des autres, dans une relation, les uns des autres dans une relation. On est toujours dans le paradoxe.
Et considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Philippien. Aussi ça, c'est pas Philippien.
Mais réciproquement.
Absolument, voilà, tout à fait.
On est toujours dans ce paradoxe. C'est pas simple.
Mais est-ce que c'est parce que là, il parle des hommes, alors que là, il parlerait plutôt des frères? Est-ce que c'est ça la différence?
Je crois pas. Non. Je ne crois pas.
Il faut tenir les deux.
Parce que l'annonce de Paul, la mission de Paul, c'est que tous les hommes deviennent des frères. Il faut toujours aller là où le nom du Christ n'a pas été prononcé. Donc, je crois jamais qu'il ferme, qu'il boucle sur un groupe. Il ouvre toujours pour ailleurs. Donc, il s'adresse toujours à d'autres encore.
Non, je pense que le don d'esclave des hommes, c'est principalement, effectivement, méfiez-vous des convenances, d'une certaine façon. Quelque chose de cet ordre-là.
Les forces de ce...
Voilà, la pression sociale aussi, qui est quelquefois assez forte à notre époque, était beaucoup plus forte encore dans l'Antiquité. Oui. On était en spectacle en permanence. Et donc, finalement, on était regardé, jugé selon un regard de type social. Et Paul veut absolument nous libérer de cela.
Alors, Rosine Dubranc, vous avez dit que l'épître à Timothée, enfin la première à Timothée, elle était écrite un peu après, etc. Donc, on l'a dit plusieurs fois, on a fait une année Saint-Paul pendant il y a quelques années là-dessus. Certaines des épîtres qui sont attribuées à Paul ne sont pas de Paul, sont de la main d'autres que Paul. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est qu'elles sont toutes placées sous la figure d'un Paul prisonnier. Comment ça se fait que, c'est vraiment ma dernière question, il reste quelques minutes, comment ça se fait qu'on ait retenu de Paul cette figure du prisonnier? Pourquoi ça?
Est-ce que c'est pas justement l'image forte du prisonnier du Christ, de celui qui est vraiment entièrement habité, animé par le Christ, hein? Il a quand même dit, Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Mm-hmm. C'est bien une forme, vous parliez de soumission, en tout cas d'adhésion, de laisser la place en lui au Christ, qui est constitutif de ce qu'il a été, et qui donc reste la figure en même temps qu'elle est la figure modèle. Alors c'est vrai que les lettres de ses successeurs qui se mettent dans sa mouvance, parce qu'ils actualisent, mais ne trahissent pas Paul, grandissent la figure de Paul qui va devenir la figure modèle. Et peut-être même trop, parce qu'il est finalement l'unique figure modèle alors qu'il y en a d'autres. Mais dans la trajectoire paulinienne, il y a ces lettres. À ce moment-là, il devient effectivement le modèle de l'homme qui est tout entier au service du Christ. Ce n'est pas lui, au fond, le modèle, c'est lui qui donne à voir le Christ.
Je crois aussi qu'il est important de dire que le Paul prisonnier, c'est un aboutissement. Parce que finalement, il a été mis en prison relativement tard.
Oui, probablement.
Hein. C'est vers la fin de ses écrits, et en particulier dans les écrits qui le prolongent, comme on le disait tout de suite, qu'il insiste sur ce titre-là. C'est-à-dire que finalement, c'est quand même pas très rigolo d'aller en prison.
Non.
Et il accepte cela parce que finalement c'est toute une vie de fidélité qui l'a conduit à aller jusque-là. Et après, il y aura donc la mise à mort, enfin sa décollation, sa décapitation à Rome, en 67, sans doute de notre ère, qui est encore, alors là on n'a pas de texte dessus, mais c'est le jusqu'au bout de la prison acceptée et assimilée.
Merci à tous les deux. Alors, quelques livres pour prolonger un peu cette discussion. Rosine Duporoc, vous avez écrit un Saint Paul, une théologie de l'Église, pardon, point d'interrogation, on en a parlé. Ça se trouve dans la collection des Cahiers Évangiles. C'est une collection qu'il faut louer particulièrement, puisqu'on peut y lire tous les trois mois, je crois.
Il y en a normalement quatre par an. Et qui est faite à la fois pour tous les gens qui travaillent sur la Bible et pour tous ceux qui s'intéressent à la Bible.
Voilà, donc c'est très simple et c'est souvent très, très bien fait. Et puis Michel Canel, prier 15 jours avec Saint Paul, c'est aux éditions Nouvelle Cité. Et puis chez DDB, Dessley Brouwer, Saint Paul et les commencements du christianisme. Merci à tous les deux. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.kto.tv.com pour la regarder autant de fois que vous le voulez. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
KTO Radio. La chronique du patrimoine.
Les chantiers du cardinal nous sont familiers, mais qui donc est ce cardinal qui les inventa? Ce cardinal, créateur des chantiers en 1931, et Jean Verdier, un pauvre enfant des montagnes, tel qu'il se définissait lui-même, ou encore un petit pâtre du Rouergue qui gardait les troupeaux et fut appelé à un destin hors du commun. Théologien, fondateur et supérieur du séminaire des Carmes, supérieur général de la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, archevêque de Paris, cardinal, légat du pape Pie XI tout au long des années 30. Cardinal sulpicien, régnant par la bonté. En 1929, écrit le journal Le Temps, le chapitre général de la Compagnie de Saint-Sulpice le choisissait pour supérieur général. C'est qu'il incarnait parfaitement l'esprit et les traditions de Saint-Sulpice par sa simplicité, sa modestie, son autorité douce, sa patience et sa ferme bonté. Mais jamais la Compagnie n'aurait pu supposer qu'un de ses membres serait à la fois archevêque et cardinal. Et c'est pourtant ce qui arriva. Pour un motif à lui seul connu, et que Pie XI ne dévoila jamais, le 18 novembre 1929, la volonté du souverain pontife se manifesta. Le sort en était jeté, ou mieux, la volonté de la Providence s'était manifestée. Remarquable amalgame de paysannerie aveyronnaise, d'onction ecclésiastique, de sagesse sulpicienne, de prudence de moraliste, de santé psychologique et d'honnêteté sacerdotale, il y avait bien de tout cela chez lui, mais il n'y avait pas que cela, souligne Jean Gauthier. Deux qualités maîtresses ont dominé sa vie et créé un lien d'amitié entre ses vertus diverses et contrastantes, un bon sens remarquable et une extrême bonté.
Moi-même, mon cœur me mène loin de mes peines. Je viens vers toi, me jeter dans tes bras. Quand, par ton regard, tu fais de moi ton fils, ton choix. Je suis pour toi, celui en qui tu crois. Du ciel, j'entends sa voix, son cœur battre pour moi. Ce Père qui m'a aimé, du ciel j'entends sa voix, son cœur battre pour moi. Ce Père qui m'a aimé. désirais te retrouver, crier ma plainte, aucune crainte quand je suis avec toi. Quand face contre terre tu me relèves et me révèles que tu es fier que je t'appelle mon père. Du ciel j'entends sa voix, son cœur battre pour moi. Ce père qui m'a aimé. Du ciel j'entends sa voix, son cœur battre pour moi. Ce père qui m'a aimé.